Les maudits sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Rien. Tel est le mot au double sens très fâcheux que le jeune époux écrit le lendemain dans son journal. Ni les cérémonies de la cour, ni la bénédiction épiscopale n'ont eu de pouvoir sur un pénible défaut organique dont est affligé le dauphin. Matrimonium non consummatum est. Le mariage n'a pas été consommé. Il ne le sera pas davantage demain, ni au cours des premières années. Marie-Antoinette a trouvé un nonchalant mari, et l'on croit au début que seule la timidité, l'inexpérience ou une nature tardive rendent impuissant le jeune homme de 16 ans en face de cette ravissante jeune fille. Surtout, ne hâtons rien et n'inquiétons pas l'adolescent arrêté par un obstacle mental, inhibé, dirions-nous aujourd'hui, pense la mère expérimentée, qui prie Antoinette de ne pas prendre au tragique la déception conjugale. « Point d'humeur là-dessus », écrit-elle en mai 1771, et recommande à sa fille « caresse, qu'est jolie ». Mais d'autre part, sans rien exagérer, car trop d'empressement gâterait le tout. Mais cette situation se prolonge un an, deux ans, et l'impératrice commence à être inquiète de cette conduite si étrange du jeune époux. Impossible de douter de sa bonne volonté, car de mois en mois, le dauphin se montre de plus en plus tendre envers sa charmante épouse, et il renouvelle sans cesse ses visites nocturnes, ses tentatives infructueuses. Mais quelques maudits charmes, quelques troubles fatals et mystérieux empêchent l'ultime et décisive caresse. L'ignorante Antoinette croit que ce n'est que maladresse et jeunesse. La pauvre enfant, dans son inexpérience, conteste même les mauvais bruits qui courent dans le pays sur l'incapacité de son mari. La mère alors intervient. Elle fait venir le médecin de la cour et le consulte au sujet de la froideur extraordinaire du dauphin. Il hausse les épaules. Si une jeune fille aussi délicieuse ne réussit pas à exciter le dauphin, tout remède médical restera sans effet. Marie-Thérèse envoie à Paris lettre sur lettre. Finalement, Louis XV, qui a une longue expérience et n'est que trop expert en ce domaine, interroge sérieusement son petit-fils. La Sonne, le médecin de la cour, est mis au courant. Le triste héros de cette aventure amoureuse est examiné et il se trouve que l'impuissance du dauphin est déterminée non point par des causes morales, mais par un défaut organique insignifiant. Les consultations se succèdent. Il s'agit de savoir si le bistouri du chirurgien doit intervenir pour lui rendre la voix, comme on chuchote cyniquement dans les antichambres. De son côté, Marie-Antoinette, éclairée entre-temps par ses amis expérimentés, fait tout son possible pour décider son époux au traitement chirurgical. Je travaille à le déterminer à la petite opération dont on a déjà parlé et que je crois nécessaire, écrit-elle en 1775 à sa mère. Cependant, Louis XVI, de dauphin devenu roi, mais au bout de 5 ans pas encore époux, fidèle à son caractère hésitant, ne peut se décider à un acte énergique. Il recule et temporise, tente et retente, et cette situation horrible, répugnante, ridicule, ses éternels essais et ses éternels échecs, dure encore 2 ans à l'humiliation de Marie-Antoinette, à la risée de toute la cour, à la rage de Marie-Thérèse, à la honte de Louis XVI. Cette année épouvantable s'écoule donc jusqu'à ce que finalement l'empereur Joseph se rende en personne à Paris pour persuader son peu courageux beau-frère de la nécessité de l'opération. Alors seulement, ce triste César de l'amour réussit à franchir, heureusement, le Rubicon. Mais le domaine psychique qu'il conquiert enfin est déjà dévasté par ces 7 années de lutte ridicule, par toutes ces nuits pendant lesquelles Marie-Antoinette a enduré, comme femme et comme épouse, la suprême mortification de son sexe. N'eût-on pu éviter, se demandera peut-être mainte âme sensible, de toucher à ce mystère délicat et sacré ? N'eût-il point suffi de voiler jusqu'à la rendre obscure la défaillance royale ? N'eût-on pas mieux fait de glisser discrètement sur cette tragédie, en parlant au besoin, à mot couvert, du bonheur absent de la maternité ? Tous ces détails intimes sont-ils vraiment indispensables à une étude de caractère ? Ils le sont très certainement, car toutes les tensions, dépendances, suggestions et hostilités qui naissent peu à peu entre le roi et la reine d'une part, les candidats au trône et la cour d'autre part, et qui se répercutent bien loin dans l'histoire universelle, demeurent incompréhensibles si l'on ne s'attaque pas franchement à leur véritable origine. Plus nombreux qu'on ne veut généralement l'admettre sont les faits historiques qui ont leur point de départ dans l'alcôve sous le baldaquin des couches royales. Mais il y a peu de cas où la relation logique entre la cause privée et les faits politiques et historiques soit aussi nette que dans cette tragicomédie intime. Et toute étude psychologique qui relèguerait dans l'ombre un événement que Marie-Antoinette elle-même a qualifié d'article essentiel de ses soucis et de ses espoirs, manquerait d'honnêteté. Autre chose encore. Dévoile-t-on véritablement un mystère quand on parle sincèrement de la longue impuissance conjugale de Louis XVI ? Certes non, mais au XVIIIe siècle, comme au siècle précédent, l'impuissance ou l'aptitude conjugale d'un roi, la fécondité ou la stérilité d'une reine, était considérée non comme affaire privée, mais comme affaire politique et d'État, parce qu'elle décidait de la succession au trône et par conséquent du destin de tout le pays. Le lit faisait aussi ouvertement partie de l'existence humaine que les fonts baptismaux ou le cercueil. Dans la correspondance de Marie-Thérèse et de Marie-Antoinette, qui passait en tout cas par les mains de l'archiviste d'État et du copiste, une impératrice d'Autriche et une reine de France parlent en toute liberté de tous les détails et malheurs de cette singulière vie conjugale. Marie-Thérèse décrit à sa fille avec éloquence les avantages du lit commun et lui donne de petits conseils féminins pour profiter habilement de toute occasion en vue de l'acte charnel. La fille, à son tour, annonce à sa mère la venue ou le retard de ses menstrues, les échecs de l'époux, les « un petit mieux » et enfin, triomphalement, sa grossesse. Il arrive même une fois que le compositeur d'Iphigénie, Gluck, partant plus tôt que le courrier, est chargé de la transmission de nouvelles de ce genre. Au XVIIIe siècle, on voit encore les choses naturelles d'un point de vue tout naturel. Thank you. Mais si encore la mère était seule à connaître cette défaite secrète? En réalité, toutes les femmes de chambre en parlent. Toutes les dames d'honneur, les gentilshommes et les officiers, les domestiques et les blanchisseuses de la cour de Versailles le savent. Et même à sa propre table, le roi doit subir plus d'une rude plaisanterie. En outre, comme la descendance d'un Bourbon constitue, quant à la succession au trône, une affaire de haute politique, toutes les cours étrangères s'en occupent de la façon la plus sérieuse. Dans leur rapport, les ambassadeurs de Saxe, de Sardaigne, de Prusse donnent des explications détaillées sur cette question délicate. Le plus zélé d'entre eux, le comte Aranda, ambassadeur d'Espagne, fait même examiner les draps du lit royal par des domestiques achetés afin d'être le plus exactement possible au courant. Partout dans toute l'Europe, rois et princes rient et se gaussent en paroles et par lettres de Louis XVI. Non seulement à Versailles, mais dans tout Paris, dans toute la France, l'impuissance du roi est le secret de Polichinelle. On en parle dans la rue, des libelles volent de main en main, et lorsque Maurepas est nommé ministre, ce couplet gaillard circule à l'amusement général. Maurepas était impuissant, le roi l'a rendu plus puissant. Le ministre, reconnaissant, dit « Pour vous, sire, ce que je désire, d'en faire autant. » Mais sous un comique apparent se cache une réalité triste et funeste, car ces 7 années de défaillance conjugale ont une influence morale décisive sur le caractère du roi et de la reine et comportent des suites politiques qui resteraient incompréhensibles si l'on ne connaissait pas ces faits. Ici, le destin d'un couple est lié au destin du monde. Si l'on ignorait ce vice intime, on ne comprendrait pas avant tout l'attitude morale de Louis XVI, car son habitus reflète, avec une netteté vraiment clinique, tous les indices typiques d'un sentiment d'infériorité né d'une faiblesse physiologique. Il manque à se refouler la force d'agir dans la vie publique parce qu'elle lui fait défaut dans la vie privée. Il ne peut s'affirmer, il est incapable de manifester une volonté quelconque, moins encore de l'imposer. Gauche, timide, secrètement honteux, il fuit la société de la cour et surtout celle des femmes, car il sait, brave homme au fond, très honnête, que son malheur est connu de tous, et les sourires ironiques et entendus le troublent profondément. Parfois il se fait violence, essaye de se donner une certaine autorité, une apparence virile. Mais alors, il dépasse le but, devient brusque, grossier et brutal. Fuite typique dans un geste de violence factice dont personne n'est dupe. Jamais il ne réussit à se montrer libre, naturel, sûr de lui, ni surtout majestueux. Incapable de virilité dans le privé, il lui est impossible en public de se comporter en roi. Entends-tu le tonnerre? Il roule en approchant. Prends un abri bergère à ma droite en marchant. Je vois notre cabane et tiens, voici venir ma mère et ma sœur Anne qui vont l'étable ouvrir.
Les maudits sont importants.